Alors, tu es qui? Tu fais quoi? Tu viens d'où?
Je m'appelle Jessica, je suis artiste visuelle, je fais de la photo, de la peinture, de la vidéo et puis j'écris. Je viens de. À la base, je viens de France. Ces 6 dernières années, j'ai vécu au Canada. Logiquement, j'y suis encore, mais là, je suis un peu en période de transition.
Quel a été ton parcours?
Donc, j'ai fait une fac de psycho, j'ai été jusqu'à la licence. Après, j'ai voulu prendre une année sabbatique, puis finalement, je me suis mise à fond dans la peinture que je pratiquais déjà depuis toujours. Et puis ça fait 10 ans donc, que je fais ça.
T'habites seule, en coloc, en famille, t'habites où?
Là, j'habite un peu à plusieurs endroits en même temps, c'est-à-dire que quand je suis en France, j'habite chez un de mes meilleurs amis à Beaumont-sur-Oise, donc avec lui en appart. À Montréal, j'ai un appart où je suis toute seule dedans. Ouais, c'est ça. Mais comme je me déplace beaucoup, j'ai pas vraiment d'endroit où je vis.
Quelles sont tes références culturelles qui ont pu marquer ton enfance, les artistes, les films, les dessins animés, les chansons?
Alors, enfant, le royaume, c'est la base. ça a été principalement ça. J'ai jamais été trop fan des Disney et tout ça, mais alors le Roi Lion, ça a été, voilà, c'est ma vie. Après, il y avait quand même les Minicums que j'aimais bien regarder. Après, un peu plus tard, il y avait des films qu'on regardait en boucle avec mon frère. Il y en a 3. Il y a eu True Lies, The Mask et Un Indien dans la ville. Ça, c'était genre nos films. Après, en musique, il y a eu. Alors, au départ, c'était la musique de mes parents. Donc, ma mère, elle écoutait beaucoup France Gall, Brel, des trucs comme ça, Bob Marley aussi, Jimmy Cliff et tout ça. Et mon père, c'était beaucoup de compas. Donc, du compas haïtien. Donc, c'était pas mal ça. Et après, en grandissant, j'ai eu mes musiques, donc les boys bands, Spice Girls, To Be Free et tout, j'aimais trop. Et après, il y a eu le rap français. Et là, le rap français est venu tout effacer. Genre Cyan Supa Crew, Diams, Youssoupha, bon ça c'était un peu plus tard, mais voilà, C'est Fiou, tout ça, c'était ma vie.
L'univers. Quels sont les héros de notre génération pour toi?
Tu vois, je l'ai posé, je sais pas combien de fois cette question, mais pourtant j'ai du mal à y répondre. C'est chaud parce que, tu vois, quand on était petit, on n'avait pas quelqu'un à admirer, j'ai l'impression. Ou je sais pas si c'est parce qu'on est trop petit, mais. Ouais, je sais pas. À l'adolescence, plutôt, ça a été plus des figures artistiques, tu vois. Donc, ça a été Diams qui, tout d'un coup, vient raconter ce qu'on vit, enfin, en tout cas, moi, ce que je vivais au quotidien, et qui se fait une place dans le mainstream, tu vois. Donc ça a été ça, ça a été le Cyan Supa Crew, de les voir aux Victoires de la musique en 2002, un crew enfin qui ressemble à tes potes et ce que tu vis au quotidien, et tu les vois sur France 2 et qui gagnent une victoire et qui déchirent tout, et tout, c'est un truc de fou. Ouais, ça va plus être ça. Après, il y a aussi eu des gens comme, tu vois, Sonia Rolland qui a été Miss France, une métisse, et t'es là genre ah c'est cool, elle est un petit peu comme moi et tout, Noémie Lenoir, tout ça, et après un peu plus tard Christiane Taubira,
D'accord.
pour moi c'est vraiment, c'est encore ma héros,
Ah ouais,
M
à ce
mon
moment-là.
héroïne,
D'accord. Ah ouais,
ouais, mais
ok.
grave, elle est trop, ouais, j'ai envie qu'elle soit présidente de la République.
C'est noté. On verra si ça va se réaliser ou
Voilà,
pas.
si elle peut écouter.
Exactement. Tes rêves d'enfant, du coup, et tes craintes, c'était quoi?
Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir eu des rêves, mais en même temps, j'étais tellement rêveuse que je crois que j'en ai trop eu pour me souvenir d'un. Mais de manière générale, tout était orienté vers j'ai juste envie d'être libre, que personne me fâche, que personne me dise quoi faire, et juste de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Et ça a toujours été, mais genre, depuis la crèche, quoi, j'ai toujours été comme ça. Donc, ouais, je pense que c'était d'être libre. Et mes craintes, du coup, mes craintes. Et je pense qu'ils le sont encore. Ça a été, à part avoir peur du noir et des araignées, ça a été d'être enfermé dans un truc, justement. D'être. d'être toujours prise au piège dans un truc où je peux pas sortir
Mmh.
et de pas
Pas
être libre
libre,
en fait.
quoi.
Ouais, voilà.
Alors, du coup, c'est quoi d'être adulte? C'est être libre? À partir de quand est-ce qu'on devient adulte? À partir de quand est-ce qu'on est libre?
Alors, être adulte. Pour moi, être adulte, donc c'est assumer ses responsabilités, exactement comme tu as dit. Mais c'est aussi, en fait, tu vois, ces dernières années, les moments où je me suis sentie trop adulte, c'est par exemple le moment où tu as payé tes impôts. Genre là, j'ai trop l'impression d'être
Ah
adulte.
bah oui, là ça
T'envoies ta
parle plus.
déclaration et tout, et c'est genre, c'est bon, là, t'es au max de l'adulte. En fait, c'est plein de petits trucs tout bêtes. C'est t'es chez toi et tu dois faire le ménage. Pour moi, c'est être adulte, ça,
C'est
tu
clair, il n'y a plus personne qui le fait pour
vois.
toi.
Voilà. C'est faire des trucs que t'as pas envie, tu vois. C'est, je sais pas, moi, t'as un rendez-vous médical, par exemple, t'as un truc, et puis t'es tout seul et tu comptes sur toi, il n'y a pas ta mère qui t'accompagne et qui est là et celle qui s'occupe de tout. Ouais, en fait, c'est s'occuper de toi. C'est savoir s'occuper de soi et te démerder quoi.
C'est intéressant ce que tu dis. Alors, est-ce que toi, t'es adulte?
Je
Et depuis
crois
quand?
que... Alors, je crois que la manière dont je le définis, oui. Maintenant, je sais très bien que pour plein de gens, je le suis pas, tu vois. Mais voilà, la façon dont je vois ce que c'est être adulte, ouais, j'ai l'impression d'être adulte. Et depuis quand? J'ai fait un voyage de 3 mois en Inde quand j'avais 27 ans. Je crois que c'est vraiment à ce moment-là. Ah bah ouais, bah tiens, ça compte dans le fait de c'est quoi de être adulte. L'Inde, je l'ai fait toute seule en tant que femme. C'est clairement super dangereux.
C'est clair.
Et en fait, de devoir me protéger toute seule et me défendre toute seule, ça a été vraiment le switch de hey, je suis une femme en fait, je suis plus une enfant, je suis plus une jeune fille, je suis une femme adulte. Et ça, savoir se défendre et se faire respecter, je pense que ça fait partie de ça aussi. Et du coup, ouais, c'est depuis ce moment-là que je me sens adulte.
Comment vis-tu le fait d'avoir 30 ans?
Bien. En fait, ça fait un bon 2-3 ans que je dis déjà que j'ai 30 ans, parce que, en fait, dans le métier que je fais, comme je parais jeune, souvent les gens ne me prennent pas au sérieux. Donc ils se disent pas que j'ai 10 ans de métier en fait. Donc à chaque fois c'est oh la petite jeune, ah bah t'es stagiaire, tu fais tes études et tout. Et du coup je suis trop contente de dire ah mais j'ai 30 ans en fait. Donc
Surprise!
voilà. Donc par rapport au métier que je fais, vu que mon métier c'est un peu toute ma vie, ben, par rapport à ça, je suis contente d'avoir 30 ans.
Et par rapport au reste?
Par rapport au reste. Bah ça va, parce que tu vois quand je pense à quand j'avais 20 ans, tu sais quand on a 20 ans, on se connaît pas, on est complexé de tout, on croit toujours que le moindre petit truc qu'on a, c'est pas normal, on n'a pas confiance en nous, enfin c'est horrible tu vois, alors qu'à 30 ans on commence vraiment à mieux se connaître, à avoir un peu plus confiance en soi, à être capable aussi de se rendre compte de la personne qu'on était avant, de pouvoir conseiller des plus jeunes et tout, et du coup j'aime bien. Tu vois, c'était un peu un mythe avant, quand j'étais plus jeune. Les femmes de 30 ans, elles aimaient trop dire ça. Ouais, quand on a 30 ans, c'est la plus belle période, on a confiance en soi. Moi, je me disais, c'est trop des mythos, tu vois. C'est pour se rassurer du fait que ça vieillisse. Et en fait, j'ai l'impression que c'est vrai. Parce que je le
D'accord.
vis. Donc, je crois que c'est vrai.
Donc t'es beaucoup plus épanouie aujourd'hui qu'à 20 ans, quoi.
Ah, mais grave, grave.
D'accord. As-tu fêté tes 30 ans?
Plus ou moins. Enfin, j'ai pas fait de fête. On a juste fait un repas. J'étais au Rwanda. Donc on a juste fait un petit resto, voilà. Mais je pense que je vais les fêter toute l'année avec des petits trucs tout bêtes. Juste, c'est l'année de mes 30 ans, tu vois.
Génial. Je me permets de rajouter une question
Voilà. Oui,
à ton
bien sûr.
formulaire, c'est pourquoi ce projet?
Pourquoi ce projet? Alors en fait, bon déjà, il y a un bon 4-5 ans, je voulais faire carrément un documentaire, une série documentaire sur la génération Y. Donc de... Alors, il me semble que Y, c'est de 87 à 92, ou 88 à 92, avec ce genre de questions-là, en fait. Et bon, ça prend du temps, c'est assez ambitieux, j'avais laissé ça de côté. Et l'année dernière, je parlais avec une amie qui s'appelle Morgane, qui, elle, a eu 30 ans un mois après moi. Et en fait, on était en train de parler de ça, on se disait, ah, l'année prochaine, on a 30 ans et tout. Et donc, elle aussi, elle est au Canada, et a fait des études pour être chirurgienne pour chevaux, donc c'est des études interminable. Et donc on parlait de ça. Donc elle était là, ouais, moi je suis encore dans mes études et j'en ai encore pour voilà le temps. Moi je suis artiste, donc totalement instable. Mon revenu, enfin c'est catastrophique et tout. Toutes les deux on était célibataires et tout ça. Et on était là, genre. Franchement, on n'a pas de mec, on n'a pas de situation, on n'a rien, on sait même pas où on va vivre plus tard et tout. Et du coup, on se posait plein de questions. Et finalement, là, les questions que je pose dans ce projet, c'est presque toutes les questions qu'on s'est posées pendant cette discussion.
D'accord.
Et voilà, et donc après la discussion, j'y ai repensé et tout, et je me suis dit, ah, mais ce serait trop cool d'avoir d'autres personnes en fait qui sont nées en 89 et de savoir ce qu'elles pensent et tout ça. Et comme j'ai toujours plein de projets et que souvent ils aboutissent pas, j'ai cherché la forme la plus simple et la plus rapide à réaliser. Et donc je me suis dit, un podcast avec une dizaine de photos, c'était pas trop mal. Voilà. Et
D'accord,
donc j'ai
ok.
lancé un appel et j'ai eu plein de réponses, et du coup je me suis dit, ok, on le fait.
C'est le bon projet.
Voilà.
Celui-là, il va aboutir.
Voilà.
Ok. Et alors, est-ce que tes parents te prennent au sérieux? Est-ce qu'ils te voient comme un adulte?
Je pense pas. J'en ai pas la certitude, mais je pense pas. Je
Pourquoi?
pense que. Alors, peut-être que ça commence un peu à changer parce qu'ils voient qu'il y a des organismes qui m'appellent pour réaliser des choses et tout ça. Mais je pense quand même que pour eux, ils ont toujours un peu cette image de je suis dans une crise d'adolescence interminable où je veux juste faire de l'art et pas travailler, parce que évidemment, enfin là quand même ils se rendent compte que c'est énormément de travail, mais je sens que qu'ils le sentent pas comme. Tu vois par exemple l'année dernière j'ai eu des gros problèmes financiers et du coup j'ai dû travailler pour un café et puis pour une auberge de jeunesse en même temps et puis j'étais gérante des deux endroits et c'était des horaires de travail mais juste c'était du n'importe quoi. Et ils sont venus au Canada à cette période-là, et j'ai vu dans leurs yeux une fierté que j'ai jamais vue en 10 ans, tu vois.
D'accord.
Donc même si j'ai l'impression qu'ils me soutiennent dans ce que je fais, il y avait quand même ce truc de « Ah, là, elle fait un truc sérieux, tu vois.
Elle rentre dans le cadre.
» Voilà, elle fait un petit truc business et tout. Et même toutes les fois où, presque tous les ans, j'ai envie de reprendre mes études, et je sais que quand je leur dis « Ah, ben cette année, c'est la bonne, je vais reprendre mes études », je sens qu'il y a un truc. Genre, ah enfin, tu sors de ta crise, tu vois. Donc, ouais, je suis pas sûre qu'ils me prennent tout à fait au sérieux.
Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il faisait à ton âge, mon départ?
Alors, mon père à 30 ans, il m'a eu. Il était déjà maçon. Et ma mère à 30 ans. Là, elle a quel âge? À 30 ans, j'avais 4 ans. Donc, elle avait mon frère. Devait avoir 5-6 ans et moi 4 ans. Ouais. Ça. Et puis à cette époque-là, quand j'avais 4 ans, je pense qu'elle venait de changer de travail et qu'elle était rentrée à la PMI en tant que secrétaire.
D'accord.
Ouais. Ouais. Et puis ils avaient déjà leur maison. Ouais. Ça. Déjà mariés et tout
Classique,
ça. Voilà.
n'est-ce pas?
Voilà.
Alors, comment tu vois l'avenir du monde, le tien, celui de tes enfants éventuels?
L'avenir du monde. Bah, je suis partagée, parce que quand on regarde l'histoire, on se rend compte que tout finit par s'arranger. Mais je pense que là, il va falloir qu'il y ait un gros pet, que vraiment ça explose pour que justement on puisse redémarrer quelque chose. Et tu vois, toutes les théories de collapsologie et tout ça, on se dit comme ça? Collapso. Ouais, je crois que c'est
La théorie
collapsologie.
du collapse.
Ouais, la
Ouais.
théorie du collapse. Je pense que ça va arriver, enfin, que ça va arriver. Enfin, qu'on va le vivre. Et moi, en fait, j'ai envie que ça arrive parce que là, c'est. Tu sais, ça escalade tout doucement, tout doucement,
Ouais.
tout doucement. Et c'est chiant. T'as juste envie, à un moment donné, que.
Ça
Venez,
pète.
ça pète une bonne fois pour tout. Et on avance, tu vois. Parce que là, en fait, c'est vraiment en mode. Surtout, en fait, que ce soit l'écologie, que ce soit la situation sociale, que ce soit tout ce qui est racisme, xénophobie, intolérance, enfin. C'est dégueulasse ce qui se passe. Moi, je trouve ça horrible. Et même si, tu vois, on parle des avancées technologiques, machin et tout. Alors oui, il y a des avantages, mais en fait, on pourrait s'en passer, tu vois. C'est pas indispensable. Genre, les besoins indispensables qu'on a pour vivre, ils ont pas besoin des avancées technologiques. Donc oui, c'est bien, les avancées technologiques, mais on peut aussi s'en passer, donc... Donc ouais, ça serait bien que ça pète une bonne fois pour tout, qu'on rebaptise derrière et voilà quoi. Mais l'avenir, je le vois pas du tout positif. je pense que ça va péter, qu'en parallèle, il y a toutes les initiatives positives justement qui sont en train de se développer aujourd'hui, qui vont venir prendre le dessus, et du coup, là, les gens qui s'investissent pas dans ces initiatives-là vont se dire, ah bah heureusement que ces gens-là ont développé ça, et puis ça va servir à tout le monde, mais il va y avoir un gros pec là.
Et bah,
Ouais.
vivement les années à
Faut se
venir.
préparer. Et du coup, moi, mon avenir, bah, je sais pas. Déjà, je sais même pas où je vais être la semaine prochaine. Mais mon avenir, je sais pas. J'aimerais bien. Et j'aimerais bien juste avoir une petite cabane. Tu sais, les tiny house, là. Une petite cabane dans un endroit nature, pas trop loin de l'eau. Avec un grand, grand, grand jardin. Avec ma nourriture qui pousse, pas dans un souci écologique, mais juste parce que je déteste aller faire les courses. Et puis être là à faire des peintures, à écrire, et de temps en temps aller tourner un documentaire. Moi, ouais, j'aimerais bien avoir une vie comme ça, tu vois.
Donc libre toujours.
Toujours libre.
Même si ça pète partout.
Voilà.
Tu veux des enfants?
Voilà. Bah, je suis partagée. Je suis grave partagée. Parce qu'il y a une partie de moi qu'en veut. Parce que, bah, parce que malgré ce qu'on en dit, je trouve que c'est quelque chose de naturel. Enfin, ouais, je trouve que c'est ouais, c'est quelque chose de naturel d'avoir de procréer quand on peut, hein, bien sûr, quand on est viable. Quand je vois mes nièces et neveux, je trouve ça trop cool. Après, donc il y a deux aspects. C'est que dans mon souci de liberté, avoir un enfant, c'est quand même avoir un petit être humain dont tu dois t'occuper au minimum pendant 18 ans, quand même, malgré tout.
Minimum.
Minimum. Et puis de toute façon, même après, quand ça grandit, enfin, je vois bien mes parents, quand ça grandit, ça reste ton petit enfant de 18 ans. Ouais, donc là, à partir du moment où j'ai un enfant, je suis plus libre. Sachant que si j'ai un enfant, a priori, j'ai aussi un mec. Donc ça me rajoute encore entre guillemets, quelque chose qui m'enchaîne.
D'accord.
Donc il y a ça, et après, par rapport au monde, bah, je me dis qu'on est énormément sur Terre, que rajouter quelqu'un, ben, c'est pas super responsable finalement dans lequel on vit, et que du coup, mais du coup, tu vois, ça contredit mon truc de c'est naturel d'avoir des enfants. Mais en fait, je me dis, est-ce que ce truc naturel qui est de procréer et de perpétuer l'espèce, est-ce que finalement se dire que dans le monde dans lequel on vit, qui est déjà hyper pollué et tout ça, ce serait pas perpétuer l'espèce de ne pas faire d'enfants au final. Mais en même temps, faire des enfants, ça peut créer une petite génération de petits soldats qui vont sauver la planète et tout ça. Donc je suis hyper partagée là-dessus. Et je suis tellement partagée que je me dis, tu sais quoi, une fois que j'aurai trouvé un mec, si lui il veut des enfants, je dirais oui. Et s'il en veut pas, je dirais ok. Tu vois, je
Mais
lui
du coup,
laisserai
tu
la
dirais
décision.
que enfin, l'impact de la société aujourd'hui te pousse à remettre ton besoin ou ton envie d'enfant en question, en fait.
Ouais, clairement,
Carrément,
clairement.
d'accord.
Ouais. Bah déjà, tu vois, il y a beaucoup de choses par rapport à l'environnement que j'ai auquel je renonce. Tu vois, je sais pas si tu te souviens, à la fac, j'étais passionnée de basket. Donc quand je suis partie au Canada, j'avais 130 paires. Tu vois.
D'accord.
Et là, j'ai exactement 4 paires de chaussures. Tu vois. Donc je renonce à ça, je renonce à acheter des vêtements neufs. J'en achète, là la dernière fois que j'en ai acheté, bah, c'était là, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, et ça faisait peut-être 4 ou 5 ans que j'en avais pas acheté. Je renonce à plein de choses. Là, je sais que l'avion, ça pollue de ouf, mais pour l'instant, je me vois pas renoncer au voyage, même si je fais des longs voyages sur des longues durées. Enfin, en fait, ça me dérange pas de me dire que je dois renoncer à des choses. Je renoncer à certains conforts, renoncer à certains aliments et tout ça, si c'est dans un souci écologique, parce qu'au final on peut pas se plaindre et juste ne rien faire parce que c'est hyper confortable de manger des mangues toute l'année quand on habite en France ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, en fait, je le fais depuis à peu près 7 ans, progressivement, et en fait, je me rends compte que c'est pas si dur que ça, du coup.
C'est pas si indispensable.
Ouais, donc du coup ça me dérangerait pas de me dire bah je renonce à avoir des enfants parce que là l'état actuel de la planète est catastrophique. De toute façon, j'ai plein de neveux et nièces, donc ils viennent compenser et au moins je les ai que pour les bons côtés, tu vois. Dès qu'ils sont chiants, ils retournent voir leurs parents. Et voilà.
C'est ça. Est-ce que tu as une religion ou une démarche spirituelle?
J'ai pas de religion, j'ai eu l'éducation catholique, là, le catéchisme et tout ça, qui m'a clairement dégoûté des religions parce que la personne qui nous faisait le catéchisme était raciste et que là où on allait à la messe, le jour où on a eu un prêtre, je crois qu'il était congolais ou sénégalais, je pense congolais, le jour où on a eu un prêtre noir, il y a plein de gens qui venaient plus à la messe, donc je me suis dit,
Sympa.
ok, d'accord, super votre religion. Et puis même, tu vois, la première année de catéchisme, donc j'étais petite, donc tu vois, j'étais encore à l'école où on nous raconte des histoires dans des livres. Et du coup, moi, j'avais pas compris au début que c'était un truc vrai. Mais en fait, le catéchisme, je pensais que c'était comme quand tu vas à la bibliothèque et qu'on te raconte une histoire, tu vois. Et tu vois, à un moment donné, tu sais, aller à la messe, avoir des adultes et tout, à un moment donné, je me suis dit, attends.
C'est vrai?
Donc déjà, tu vois, à la base, c'était mal parti.
C'est ça. Déjà, tu croyais pas.
Voilà. Et par contre, j'ai une démarche spirituelle et au final, qui peut rejoindre toutes les religions, tu vois, je crois quand même à une force supérieure, à une espèce de synergie entre les éléments, je crois genre, au pouvoir de l'attraction, je crois à la manifestation des choses, enfin, tu vois, je crois à la nature qui est vivante et tout, donc dans ce sens-là, ouais, j'ai une démarche spirituelle quand même. Et
Spirituel.
au final, quand tu lis que ce soit la Bible, le Coran et tout ça, c'est à peu près ce qu'ils disent, donc bon. Voilà.
Ok, donc plus catéchisme, mais spiritualité quand
Ouais.
même. Alors, quel est ton rapport à l'amour, à la notion de couple et de mariage? Ça
Alors.
se complique.
Grave. Par où commencer? Alors, l'amour, bah, je le vois comme quelque chose de vraiment très. Genre. Pour moi, c'est quelque chose de pur, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qu'on contrôle. Tu vois, quand j'entends des fois enfin, souvent des amis dire on peut aimer qu'une seule personne et tout, enfin, pour moi ça n'a aucun sens en fait. C'est tellement quelque chose qui se contrôle pas, que ce soit au niveau du sexe, au niveau de la religion, au niveau de l'origine, comment tu peux contrôler le nombre en fait? Enfin, tu vois, pour moi ça n'a pas de sens, donc ça c'est au sens juste de l'amour en soi. Après tout ce qui est engagement, mariage, couple et tout. Bah, c'est compliqué parce que bah, tu vois, j'en ai parlé, mon besoin de liberté. C'est sûr qu'être en couple, tu renonces à énormément de choses. Je parle pas d'avoir d'autres partenaires ou quoi. Je parle vraiment juste du fait de. T'es en couple, demain tu veux te casser pendant 3 mois dans un autre pays, bah tu dois prendre en compte la personne que t'as en face de toi, lui en parler et éventuellement, si ça le dérange, bah, prendre en compte son avis en fait. Et si t'as des projets, bah c'est que t'as une deuxième personne qui rentre en compte dans tes projets et tout ça. Donc, tu vois, c'est quelque chose qui est pas évident pour moi.
Mais c'est marrant parce que tu le vois forcément comme une contrainte et non pas comme un soutien, justement, ou pourquoi pas justement un couple où vous pourriez voyager ensemble ou
Bah justement, c'est ça aussi. C'est qu'il y a cet aspect où c'est confortable d'être en couple. C'est agréable d'être à deux. Ça fait du bien en fait, ça te repose, tout d'un coup il n'y a plus tout sur tes épaules et tout ça. Et en fait c'est ça, c'est qu'il y a un mois j'ai rencontré quelqu'un et c'est la première fois où j'arrive à me projeter de cette manière-là. Et je me dis, putain, c'est super agréable de se dire que potentiellement dans tel temps de mois ou d'années on va s'installer à tel endroit et puis on se dit que c'est pour 1 an et puis après on va bouger à tel endroit. Il y a quelque chose d'hyper rassurant et d'agréable. Mais en même temps, tu vois, par exemple, cette personne-là, l'endroit où on va se rejoindre, bon, on doit le décider à deux, tu vois. Moi, si demain, j'ai envie que ce soit, je sais pas, on va dire au Sénégal, mais que lui, c'est, je sais pas, en Thaïlande, ben, à un moment donné, voilà, tu vois, soit on fait plouf-plouf. Soit il y en a un qui fait une concession et qui dit bon bah ok j'accepte ton choix tu vois. Donc c'est plus dans ce sens-là. Parce que là par exemple, on doit se rejoindre et je sais que je dois faire des concessions sur mes projets. Enfin, qu'en fait quand je réfléchis aux mois qui vont arriver, je dois réfléchir à il y a lui, où est-ce qu'il va être à cet endroit, tout ça, tu vois. Et même s'il y a ce côté agréable du couple et on a envie des mêmes choses, enfin, on est compatible, blablabla, il y a ce truc de putain, ça me fait chier de prendre quelqu'un d'autre en compte, tu vois. Donc, ouais, c'est pas évident pour avoir la question de couple et tout ça. Puis
Et donc le
après,
mariage,
bah,
on
le
en
mariage,
parle.
alors en fait, alors, bizarrement, j'ai ce côté-là qui me fait rêver, tu vois, la robe blanche et tout, la
D'accord.
cérémonie. La bague, enfin, franchement, ça me fait trop rêver ça, tu vois. Du coup, je suis plus en mode, bah, si je rencontre un gars qui a envie de se marier, très bien, on le fait. Si c'est un gars qui a pas envie de se marier, ça me dérangera pas plus que ça. Bah, c'est un peu comme les enfants, tu vois, c'est si j'en ai, tant mieux, si j'en ai pas, tant pis. Puis le mariage, bah, si on se marie, tant mieux, si on se marie pas, tant pis.
D'accord.
Mais si c'est ouais, si c'est une personne avec qui je suis sûre, enfin, de toute façon, il y a le divorce, donc on s'en fout d'être sûr ou pas, mais.
Je peux redevenir libre.
Voilà, mais ouais, le mariage pour la cérémonie.
La bague, surtout
Voilà,
pour la
voilà.
bague.
Et la belle robe blanche.
C'est sûr. Est-ce que tes parents sont au courant de ta vie amoureuse du coup?
Non,
Jamais.
jamais. Mon père, quelquefois, quand j'ai un mec que je sais qu'il va kiffer, je lui dis, tu vois, je dis, ah, j'ai rencontré un mec, il fait ci, il fait ça, tu l'aimerais trop et tout. Mais non, sinon. Bon, le dernier mec que j'ai ramené, ça date d'il y a 10 ans.
Donc ils vont pas s'impliquer forcément dedans, et ils vont pas te foutre la pression quoi.
Oui et non. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils me posent une question, je vais pas répondre. Donc ils ont fini par lâcher l'affaire. Mais par contre, ouais, ils aiment bien lancer des petits pics. Enfin, des petits pics, c'est pas des petits pics, mais moi je le prends comme des petits pics. Genre, ah, j'ai envie d'être. J'ai envie quand même d'avoir des petits enfants. Tu vois, mon frère, il a déjà 2 enfants. Donc à chaque fois, je dis, c'est bon, il les a fait, vos petits enfants, tu vois. Ouais, mais quand même, faudrait que tu nous en fasses et tout. Tu vois, ils me demandent beaucoup plus facilement quand est-ce que tu fais des enfants que quand est-ce que tu es en couple, alors que c'est quand même l'ordre logique des choses, tu vois.
D'accord.
Mais ouais, ils aiment bien des fois dire des trucs comme ça et ça me saoule, grave.
Comment tu réponds du coup?
Je réponds pas.
Tu réponds jamais.
Non.
Ok. Alors du coup, on entend que nous, on a la bougeotte, qu'on est instable. Est-ce que pour toi, c'est justement synonyme d'immaturité de notre génération?
Non, je pense pas, mais en fait, ce que je pense, c'est que pour les anciennes générations, on pense toujours que la génération qui arrive est immature, j'ai l'impression. Parce que même nous, quand on regarde la génération qui arrive, même s'il y en a qui sont. Enfin, même si. Ouais, il y en a quand même, enfin, il y en a beaucoup qui sont investis dans plein de causes, enfin, qui
C'est
font
vrai,
bouger les choses,
c'est vrai.
qui ont des couilles et tout, ben. On va quand même dire qu'ils sont immatures. Et je pense que c'est juste un truc de vieux con de dire ça, tu
On
vois.
est des vieux cons,
Grave!
mais.
Grave! Donc non, pas du tout. On n'est pas du tout immatures, non.
Et t'as l'impression qu'on a dit de nous, effectivement, qu'on était immature aussi?
Qu'on a dit de notre génération? Ouais, grave. Et ouais, tu sais, il y a plein de trucs, d'articles et tout sur la génération Y. Qui est immature, Tanguy, qui part de chez leurs parents à 30 ans, un truc comme ça, tu vois. Ou qui reviennent chez leurs parents à 30 ans et tout. Mais non, moi, pour moi, c'est pas un signe d'immaturité, c'est juste qu'ils nous ont laissé une société de merde et qu'on s'adapte comme on peut, quoi, tu vois.
Pas mal, pas mal. C'est quoi pour toi la plus grande force de notre génération alors, dans cette société de merde?
Je pense que c'est de nous autodéfinir. Dans le sens où on a vachement été la génération de la transition. Enfin, pendant notre parcours scolaire, on a été la génération des tests, de réformes. Tous les 1 ou 2 ans, il y avait des nouvelles réformes qui changeaient tout. On était tout le temps en grève. Enfin, c'était l'enfer. On avait vraiment l'impression d'être dans un laboratoire et qu'on testait tout et n'importe quoi sur notre génération, quoi. Et du coup, ben, de tout modifier comme ça, tout le temps, de nous dire aussi, ben, maintenant, c'est plus le bac, mais c'est la licence qu'il faut pour avoir un travail. Et plus on évoluait, et en fait, plus il fallait encore des études. En fait, voilà, donc cette génération de transition, j'ai l'impression que ça a fait de nous des individus en mode, bah, vous êtes en train de nous tester, vous nous donnez pas de cadre et tout, bah, on va s'autodéfinir nous-mêmes en fait. Et j'ai l'impression que c'est pas mal ça notre force.
Donc d'avoir été un peu laissé seul quoi face à vous
Ouais,
quoi.
c'est ça.
Et donc le super-héros de notre génération, ce serait quoi?
Est-ce que tu te souviens du livre là avec l'éléphant qui avait plein de couleurs, plein de carrés
Oui, les
de
kaléidoscopes de
couleurs. Ouais,
l'éléphant, oui.
voilà. Donc ce serait un espèce d'être patchwork comme ça. Tu vois, physiquement
Ok.
déjà, il serait comme ça. Et puis il serait grand, il serait en forme, tu vois, genre musclé, enfin, sportif. Genre, tu le vois, tu dis, il est prêt à toute épreuve.
Homme, donc.
Non.
Tu dis
Ben,
il.
ouais, je pense qu'il serait. C'est les escargots qui sont hermaphrodites? Ouais, bah.
Il serait escargot.
Ouais, voilà. Tu vois. Il serait les deux. Il serait pas ni homme ni femme, il serait homme et femme. Il serait les deux. Et du coup, je dis il, parce que, voilà.
Ouais, c'est le super-héros.
Ouais,
Tu vois, ça peut pas être une femme déjà, c'est le super-héros.
hein. Donc, hermaphrodite et physiquement patchwork. Et après, au niveau des pouvoirs, je pense qu'il serait médiateur. Tu vois, ce serait pas le super-héros, il y a le bien, il y a le mal, combattons le mal. Mais plutôt, bah, il y a ni bien ni mal. Et en fait, dans les deux côtés, il y a toujours du bien et du mal. Et du coup, plus médiateur de, ok, il y a une embrouille ici. Ok, allons démêler tout ça et aidons les gens à se comprendre et aidons à montrer aux gens le point de vue de l'autre. Et puis, s'ils sont pas d'accord, bah, montrer que c'est ok de pas être d'accord. C'est pas grave en fait. Qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais qu'on peut quand même vivre ensemble. Donc ouais, un super-héros médiateur. Et un super-héros qui implanterait de force. Il serait un peu dictateur, tu vois. Ça me dérangerait pas qu'il soit dictateur pour implanter de force, de l'empathie et de la compassion chez les gens. Donc c'est-à-dire que les milliardaires là, qui donnent je sais pas combien à Notre-Dame, et bah qu'ils fassent la même chose pour développer des projets durables, pour que les gens partout dans le monde puissent se nourrir, se loger, et juste avoir leurs besoins de base, tu vois, comblés, et voilà. Et du coup. Tout le monde aurait ce truc d'empathie et de compassion, mais tout le monde vivrait à la fois pour soi et à la fois pour les autres.
Ouais,
Voilà.
donc ce serait un super-héros social, quoi.
Ouais, à fond. Ce
Entre
serait.
Pascal le grand frère
Et la badie.
et la badie. Exactement. C'est pas mal, ça me va. Je le mets en kaléidoscope en plus, j'aime bien. Et du coup, alors qu'est-ce que t'attends comme. Je sais pas, comme. Retombée de ce projet, comme. Qu'est-ce que t'en espères finalement? Impact, je sais pas.
Alors, il y a un truc que j'ai bien aimé que j'attendais pas. C'est. Il y a des gens nés en 90, il y a deux personnes nées en 90 qui m'ont dit qu'ils adoraient le projet et que c'était dommage que je fasse que pour les 89. Et du coup, je leur ai dit, mais en fait, c'est pas du tout un projet qui m'appartient. Donc, si tu veux le faire, enfin, si vous voulez le faire l'année prochaine en 90, mais s'il vous plaît, faites-le, quoi. Et ça nécessiterait, hein, tu vois, là, tu sais, j'enregistre avec un zoom, le son, il est pas ouf. Enfin, tu sais, t'enregistres avec ton téléphone, du moment qu'on entend, on s'en fout, tu vois, ça a pas besoin, tu fais des photos avec ton téléphone, ça a pas besoin d'être un truc, t'as pas besoin de matériel en fait. Donc j'aimerais bien que ce soit un projet qui soit repris, ou même cette année, qui soit repris dans d'autres pays et tout, je trouverais ça super cool. Et sinon, après, en voyant plus grand, bah, j'aimerais bien, tu vois, que par exemple, je sais pas moi, par exemple, en 2029, ou en 2039, ou même beaucoup plus loin, que ce soit retrouvé, je sais pas où, tu vois, si le site reste, tant mieux, ou sinon, tu sais, qu'il y ait une espèce d'archive, et que les gens écoutent ce que les trentenaires de 2019 pensaient du monde et de la notion d'adulte et tout ça. Je trouverais ça
Okay.
super cool.
Et
Voilà.
est-ce que tu as pensé à faire le bébé du projet en mode les quarantenaires de la
Ouais,
génération Y?
je
Ouais.
pense que je le ferais.
Tu
Ouais,
reprendrais les mêmes
2000.
personnes? Tu changerais complètement l'idée? T'as
Idéalement,
réfléchi?
ce serait de prendre les mêmes
Ce serait les
personnes.
mêmes? Ok.
Idéalement, ouais. Mais sinon, on verra. Mais ouais, grave. Je trouverais ça trop cool.
Alors, quelle est ta philosophie de vie?
De vivre. Non, attends, comment je pourrais dire ça sans paraître égoïste? Ouais, si, c'est égoïste. De vivre pour soi, en fait. Dans le sens où on nous a appris que c'était super égoïste de penser à soi avant tout le monde et tout ça, mais en fait, c'est super important. De vraiment vivre pour soi, de faire les choses pour soi. Et au final, en fait, quand tu fais un truc pour toi, ben, si ça te fait plaisir de le faire, ça va forcément faire kiffer les gens. Et dans tous les domaines, tu vois. Enfin, quand tu veux, par exemple, Je travaille pas mal, enfin, ça m'intéresse beaucoup le social. Et aujourd'hui, donc c'est plus la psychologie, mais c'est à travers la photo, la vidéo et tout. Et j'adore faire des documentaires sur des projets sociaux ou artistiques et tout ça. Et en fait, je suis amenée à aller dans des communautés, dans des trucs et tout. Et assez souvent, des milieux pauvres. Et tu vois, des fois, il y a des gens qui me contactent, genre, ah, j'aimerais trop moi aussi aider les gens, faire de l'humanitaire ou des machins comme ça. Donc, déjà, il y a une. Il y a tout qui est mélangé, genre aider les gens humanitaires, enfin, c'est plein de choses différentes. Et il y a ce truc de, les gens le font, mais sans même savoir pourquoi. Et cette espèce de truc de, je veux aider les gens, mais concrètement, toi, qu'est-ce qui te fait plaisir dedans? Parce que si c'est juste la reconnaissance et la gratitude et te dire que t'as été utile, bah, c'est peut-être pas ça que tu dois faire, tu vois. Et du coup, je pense que ouais, il faut vraiment faire quelque chose qui te fait plaisir, toi, parce que. Moi, je sais que ça aide d'une certaine manière les gens, mais concrètement, c'est parce que moi, en première, je kiffe aller dans des communautés qui sont pas forcément faciles d'accès, où les gens m'accueillent, et je suis là en mode observatrice, à regarder comment ils vivent et tout. C'est hyper égoïste, hein, tu vois. Mais le truc, c'est que j'adore vivre ça, et j'adore tellement vivre ça que j'ai envie de le documenter et de montrer aux gens ce que j'ai vécu, tu vois. Et du coup, ouais, moi, c'est ça ma philosophie de vie, c'est tu vis pour toi, et puis après, ben. Ça sert pas, mais faut que tu te fasses passer en premier. Parce que sinon, sinon t'es pas bien et tu peux pas être bien pour les gens si toi t'es pas bien toi-même.
Et t'avais la même en 2009?
Et en 2009, quand je faisais psycho? Non, je pense que je pense qu'il y a 10 ans, je pense que ma philosophie de vie c'était. Alors je pense que ça se rapprochait de ça, mais je pense pas que j'aurais mis ces mots-là dessus. Je pense que les mots que j'aurais mis dessus, c'est un peu ce que j'ai dit plus tôt, c'est sois libre et fais ce que tu as envie de faire. Ouais, je pense que ça aurait été ça. Ce qui rejoint finalement à peu près quand même ce que je viens de dire. Mais ouais, je pense qu'il y a 10 ans, j'étais encore dans ce mood, enfin, c'est trop égoïste comment je suis et tout, faut que je change. Ouais, ça fait pas si longtemps que je me dis
Que t'es la priorité.
que genre je peux vivre, je peux accepter ce que je suis, tu vois. Il y a longtemps, je me serais dit, ouais, ce serait peut-être bien de. Enfin, faut que j'arrive à changer, tu vois. Mais en fait, non, ça va.
Faut que tu t'acceptes.
Voilà.
Et du coup, alors même si t'es quand même loin d'avoir fini ton projet, qu'est-ce qui t'a déjà apporté ce projet 1989?
Il y a des personnes que j'ai rencontrées quand je leur posais des questions, c'est des questions qu'elles s'étaient pas posées. Et du coup, qui après me disait, ah, c'était grave intéressant, ça m'a fait me poser des questions, ou alors ça m'a fait revenir dans mes souvenirs, des choses que j'avais oubliées. Donc ça, j'aime bien. J'aime bien en fait quand un projet personnel déjà parle à d'autres personnes et qu'en plus, ça leur apporte quelque chose. Ça, c'est un kiff de ouf. Et aussi, des fois, j'ai des amis qui vont écouter les épisodes et qui après qui vont me contacter en privé et par rapport à une réponse on va partir dans des débats et tout et ça je trouve ça trop cool. J'ai eu un débat avec une amie sur le fait de un gars qui disait que c'était une meuf je crois, qui disait que c'était égoïste de pas avoir d'enfant et mon amie elle était pas du tout d'accord donc on a eu un espèce de débat là-dessus et tout c'était cool et puis de rencontrer des gens que je connais pas forcément donc toi je te connais depuis la fac mais de rencontrer des inconnus, de voir des histoires complètement différentes, tout ça, c'est trop cool. Et en plus, je l'ai fait au Rwanda aussi. Et du coup, les personnes qui ont 30 ans cette année avaient 6 ans au moment du 5 ans au moment du génocide. Et tu vois, moi, dans mon idée, je me suis dit, c'est sûr qu'il va y avoir un rapport différent, c'est sûr que c'est des personnes qui sont devenues adultes beaucoup plus tôt et tout. Tu parles, ils sont comme nous, ils sont exactement comme nous, tu vois.
Donc, t'irais
C'est
jusqu'à
des.
dire que la génération Y, c'est même plus qu'un truc occidental, quoi.
C'est complètement international. Tu sais, je leur ai posé des questions par rapport à ça, par rapport au couple et tout. Je leur ai dit, ouais, chez nous, le couple, enfin, ça part en couille et tout. Mais c'est pareil, tu vois, c'est pareil pour eux, c'est l'ouverture, c'est. Enfin, c'est l'ouverture. On dirait que c'est un truc positif, mais tu sais, c'est genre des meufs, il y en a des millions, des mecs, il y en a des millions, voilà. Mais ah, c'est le même délire. Il y a plein de trucs hyper similaires, quoi. Et finalement, je trouve ça super intéressant, quoi. Et aussi, ça arrivait, je pense, dans deux ou trois interviews, c'est quand les gens n'avaient pas fait de lien avec certaines choses. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui vont me dire leur crainte d'enfant. Puis après, on va parler, et puis on parle d'un truc, et je dis, hey, mais attends, c'est lié à ta crainte, ça, de quand t'étais enfant, machin. Ou inversement, genre, ouais, mes rêves d'enfant, c'était ça, mais j'ai jamais réussi. Et puis, ah, mais aujourd'hui, tu fais ça, mais ça ressemble quand même un peu à toi, tu vois, des trucs comme ça, et ça leur fait réaliser des trucs, je trouve ça trop cool.
Je suis un peu psy, quoi.
Ouais, bah oui, un peu, hein.
La badisseur de l'art. Ouais, donc tu dirais aussi que t'en as appris sur toi via ce projet?
Ouais.
Ouais, t'as l'impression que chaque interview t'en apprend un peu plus sur toi ou...
Pas toutes, mais ouais, quand
Ouais, quand
même.
même.
Ouais.
Ok.
Ouais.
Ouais, donc c'est un beau projet, bah écoute.
Mmh.
Génial.
Ouais. Merci.